troisième et dernier volet de notre promenade fin 19e siècle dans ces espaces périphériques de l'Europe. C'est d'une double périphérie dont on parlera cet après-midi parce que donc je vais vous présenter la peinture hongroise de la deuxième moitié du 19e siècle. Et cette peinture hongroise, elle va devoir se définir déjà par rapport, elle est déjà dans une périphérie, malgré le fameux compromis de 1867 qui va donner la possibilité. Vous ne m'entendez pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Mieux ? Oui ? Moyen ? Et comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Non? C'est pire alors? Non? C'est bon? On peut y aller. Très bien. Donc, voilà, je vais donc parler de la Hongrie. Je disais que parler de la peinture hongroise, c'est d'une part préciser la place de la Hongrie dans cette monarchie austro-hongroise, donc celle qui se définit donc à partir du compromis de 1867, mais c'est aussi définir à nouveau les relations qui ont pu exister entre les grands centres d'art de cette Europe de la fin du XIXe siècle, définir bien sûr les thématiques, regarder bien sûr le monde des formes qui se met en place. Et vous allez voir, ce troisième parcours est très très différent des deux premiers. J'ai beaucoup insisté la semaine dernière sur la question de l'émergence d'une identité nationale avec essentiellement les travaux d'Axen Gallen, mais pas seulement. Donc cette question d'identité nationale, elle est effectivement en jeu en Hongrie, bien sûr, mais malgré tout, à partir du moment où on envisage un compromis, à partir du moment où la Hongrie tient sa place, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette place, mais à partir du moment où la Hongrie tient sa place dans la monarchie austro-hongroise, c'est vrai que l'émergence d'une identité nationale va être retardée à l'issue, si vous voulez, de la Première Guerre mondiale. Et de fait, ce que vous allez voir maintenant, donc dans un contexte très très particulier que je vais définir rapidement, c'est un contexte amour-haine, évidemment, par rapport à ceux qui ont le pouvoir, et notamment par rapport à l'Académie viennoise, qui est aux mains, la culture est aux mains, comme toutes les institutions, aux mains de cet homme que vous voyez prier dans cette première image. J'aimerais bien qu'on puisse faire l'obscurité, ce serait pas mal. Et donc la peinture hongroise va probablement à cause de ce particularisme. On est dans un grand pays, mais en même temps, on est dans ce grand pays, on est dans un temps qui est encore un temps de la paix, le bon temps de la paix, comme on le caractérisait, vous voyez, on ne craint rien, parce qu'on a un empereur d'Autriche et roi de Hongrie depuis 1867, donc représentant de la double monarchie qui est en train de prier pour nous. Donc on ne craint rien tant que cet homme est là. C'est un homme qui se tient droit, qui présente bien. On en parlait à l'instant avec le président. On parlait de sa moustache rousse. Voilà, favori noir. Alors, ce que ne montre pas cette image, mais enfin, bon, cette iconographie officielle avec le ruban rouge comme ça épinglé sur la poitrine a un petit peu rassuré tout le monde. Mais malgré tout, c'est quand même un personnage qui a régné pendant 68 ans, Donc on a trois générations de peintres, d'artistes qui se sont succédés avec la même autorité au pouvoir. Quelqu'un qui a pris personnellement toutes les décisions concernant des questions capitales, alors qui nous intéresse pas directement, hein, affaires étrangères, défense, etc. Mais qui a, je pense, malgré tout, ce monsieur qui est aux mains de, enfin qui est aux commandes, pardon, d'un des plus grands empires européens, et qui n'a pas bougé pratiquement pas bougé sa ligne idéologique et pratique, il est bien évident que dans cet espace, non, pas d'étoiles pour François-Joseph, dans cet espace de la monarchie austro-hongroise, à partir de 1867 jusqu'en 1918, il va y avoir forcément des ferments de rejet de cette image, pas seulement de l'image, des institutions et de cette autorité. Je vous montre là une carte, on ira rapidement, je vous montre une carte de ce que représentait le territoire de plus de 600 000 km² avant le morcellement, c'est-à-dire avant 1918. On est là sur un territoire qui représente la troisième puissance d'Europe et qui descendra au cinquième rang dans les années comme ça qui précèdent vraiment la Première Guerre mondiale. Mais surtout dans ce territoire, je voudrais vous montrer la place que tient la Hongrie. C'est-à-dire la place que tient la Hongrie est une place énorme puisqu'elle intègre la Slovaquie actuelle, elle intègre la Roumanie, une partie de la Roumanie actuelle, elle intègre une partie, la Galicie, donc une partie de l'Ukraine actuelle. Regardez cet espace, un pays donc multiethnique, dans lequel les non-hongrois représentent presque 50% de la population, donc c'est énorme. Une population dont le nombre va doubler pendant la période qui nous intéresse, pendant la période du compromis, de la double monarchie, et donc pour atteindre une population de 10 millions d'habitants. Une assimilation énorme de presque 1 million d'Allemands, de presque 1 million de Juifs, de presque 300-350 000 Slovaques, et seulement un tiers des immigrés de cette période qui est hongrois. Donc on a évidemment beaucoup de nationalités, une loi très importante de 1868 sur ces nationalités qui va essayer de remédier à tous les conflits qui existent. C'est d'ailleurs la première loi votée en Europe, hein, l'Europe de l'époque, sur les nationalités, et qui va établir un compromis entre deux principes qui sont contradictoires, la sauvegarde de l'unité du pays, de l'unité de l'Empire pratiquement, et en même temps la revendication de différentes autonomies, et qui vont dégénérer, on connaît évidemment, on connaît la fin de cette histoire. Alors pourquoi je parle des nationalités ? Pour moi c'est important, vous faisiez allusion au protestantisme, c'est très important parce que pour qu'un pays puisse s'enrichir culturellement, pour que le dispositif Beaux-Arts fonctionne, il faut effectivement des institutions publiques, mais il faut aussi qu'il y ait des collections. Et les grandes collections hongroises, elles vont naître justement à ce moment-là, et ces grandes collections hongroises, on les doit pratiquement, uniquement, à la population israélite, de la capitale notamment, mais pas seulement de la capitale, d'autres centres d'art qui se trouvent dans le sud, sud-ouest, nord-ouest de la Hongrie. Il faut savoir que Budapest est ici, les 44 000 juifs de Budapest dans les années 1860, en 1910 deviendront 200 000 juifs, c'est-à-dire constituant plus de 20% de la population de la ville. On était à peu près, Budapest avait à peu près 1 million d'habitants. Et c'est cette intelligentsia libérale, radicale, d'abord juive, pas uniquement cette intelligentsia, mais celle qui va s'engager dans l'achat, dans le soutien des œuvres que je vais vous montrer, c'est essentiellement la communauté juive. Alors je ne parlerai pas, je ne nommerai pas forcément, je ne donnerai pas de nom, mais c'est un processus qu'il est tout de même intéressant d'expliquer et de comprendre. Alors, un statut, donc, je le répète, un statut voté, très intéressant, qui permet de, je l'ai dit, de mettre fin au premier petit conflit comme ça, autonomiste, qui s'engage déjà dans les années 70, les années 80. Et surtout, sur l'ensemble quand même de ce pays, une communauté juive très forte et une magarisation à ce moment-là. Alors, elle va perdre de son efficacité, cette magarisation. Mais dans les années qui nous intéressent, où se constitue vraiment une école de peinture régionale, entre guillemets, cette école, plutôt une école de peinture nationale, une magarisation qui est primordiale pour la réussite sociale, pour l'assimilation, que ce soit au niveau de la bourgeoisie moyenne et aussi bien pour la grande bourgeoisie. Beaucoup de patronymes ont été magarisés, beaucoup de juifs ont été assimilés, mais si je regarde les parcours de ces collectionneurs, je dois faire référence à cette grande immigration qui date des années 60, oui, juste après 1868, juste après 67-68, le compromis et la loi que j'évoquais. Regardez ce territoire, je vous montre une toute petite image, voilà l'amputation de la Hongrie après 1918. Donc vous voyez un petit peu la différence. On a perdu ça, on a perdu la Slovaquie, on a perdu évidemment des zones importantes de ce côté-là, même des petits points sur l'Adriatique. Donc je reviens à ma carte précédente, où c'est pas utile, vous l'avez en tête maintenant. Bien. 1872, voilà Budapest, voilà un plan tracé donc au moment, enfin qui a été levé au moment où on définit l'invention de la ville de Budapest. Sachez que jusqu'à 1872, vous avez d'un côté la ville de Buda, vous avez de l'autre côté la ville de Pest, et puis vous avez une troisième ville en amont qui est la ville de Obuda, le vieux Buda. Et donc, ces trois espaces, tout petits espaces, vont être réunis en une seule ville en 1872, donc cinq ans après le compromis. Et la ville va devoir, tout comme Vienne, qui fait sauter ses murailles avec François Joseph au lendemain de 1857, c'est le même processus avec 15 années de différence. La ville de Budapest va devoir faire sauter ses petites... Regardez, la ville était... Pest était petite, minuscule. Hein. Voilà l'empreinte des anciennes murailles qui ont permis de juguler l'adversaire... Enfin, de temps en temps, pas tout le temps, mais de juguler l'adversaire turc. Et sur le modèle viennois, qui va s'exporter dans toute l'Europe centrale, aussi bien à Cracovie qu'à Lvov, qu'en Ukraine, etc., enfin partout, c'est le même schéma qui est exporté, un schéma de développement avec des voies circulaires, des boulevards circulaires sur le modèle du Ring, un double boulevard circulaire ici, le petit Korut, le grand Korut, et des voies radiales qui permettent de relier, sur le modèle haussmannien hein, qui est derrière aussi, les grands bâtiments publics qu'on va construire à partir du grand compromis, puisqu'on aura un régime dualiste qui... permettra à la Hongrie d'avoir au moins 3 ministères d'empire avec ses propres ministres, les affaires étrangères, la guerre et les finances. Et donc on va construire, aménager dans cette ville 3 grands bâtiments. Je ne vous montre pas les bâtiments, c'était pas le but du jeu de parler d'architecture, mais certains sont déjà présentés sur cette vue datée de 1896 ou sont en cours de construction. Je pense notamment à la construction, les débuts de la construction du Parlement qui ont débuté en 1884 et qui est vraiment symbolique, le plus grand Parlement d'Europe, enfin, le plus grand Parlement de l'Europe de cette époque, extrêmement important, qui se définit, alors là, vraiment, à la recherche d'une identité nationale et qui va regarder du côté de l'époque médiévale Renaissance qui a été extrêmement importante pour l'histoire de la Hongrie. Mais comme je n'ai pas le temps de parler de l'histoire de la Hongrie, je n'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose de très intéressant aussi de regarder. D'où viennent les styles, quels sont les styles qui ont été choisis à Budapest, quels sont les styles qui ont été choisis à Vienne, à la fin du XIXe siècle, pour affirmer l'identité d'une nation. On verra que les choix, on pourrait voir que les choix ne sont pas du tout identiques, puisqu'il s'agit aussi de se démarquer de l'Autriche et plutôt d'aller voir ce qui se passe du côté d'une autre, d'une démocratie, enfin, ce qui est considéré comme une démocratie, j'allais dire une cratie, non, une démocratie aux yeux des Hongrois, c'est-à-dire du côté de l'Angleterre. Et donc pendant cette période, après 68, les années 70, 80, 90, un temps de paix, un temps où on croit arriver vers une autonomie, on n'arrivera jamais vers une véritable autonomie. Il y aura donc des ferments révolutionnaires qui seront matés régulièrement. On pense à l'exil de Kossuth, par exemple, Lajos Kossuth, qui ne reviendra jamais en Hongrie, et d'autres personnages. Une ville, évidemment, qui attire les gens des campagnes, une industrie naissante qui va, on la voit pas hein, sur ce plan, mais qui va prendre place dans la très très proche périphérie. Aujourd'hui, quand on arrive de Budapest, quand on atterrit ici, et qu'on se, c'est terrible, hein, avant d'arriver au centre-ville, on voit vraiment, on traverse des zones industrielles, des espèces de no man's land, avec des espaces qui sont pratiquement les espaces, en tout cas au niveau du territoire, qui n'ont pas changé depuis la fin du XIXe siècle. Mais bon, c'est une période plutôt très importante, un capitalisme naissant qui permet de consolider le système bancaire, donc très très important, et donc des conséquences importantes sur la vie culturelle. On va le voir au niveau de l'édition, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, on peut le voir donc au niveau des collections d'art. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il faut donc analyser l'émergence d'une école de peinture hongroise qui va profiter d'un événement particulier dont vous avez la date, parce que c'est dans cette année-là, 1896, qu'on a réalisé ce plan. Ce plan, c'est à l'occasion des grandes festivités qui ont eu lieu à l'occasion du millénaire de la conquête de la Hongrie. 896, c'est l'arrivée des Huns, Árpád et les autres. Donc d'un côté, il va falloir, à l'occasion de ces grandes festivités auxquelles va participer François Joseph, notre François Joseph, il va falloir faire cohabiter Árpád, le fondateur de la Hongrie, avec ce qui est évidemment qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'Autriche. Et puis de l'autre côté, il va falloir rendre hommage aussi à François Joseph. C'est un exercice extrêmement délicat. Ils y sont arrivés, et on peut en voir la trace. Je n'ai pas apporté de photo. Quand vous remontez la grande avenue des Champs-Élysées de Budapest, la fameuse Embassy, Utca, vous arrivez dans un bois, et au début de ce bois, vous avez les effigies, les statues de tous les personnages clés de cette histoire de la Hongrie, depuis le premier roi des Huns, le premier évêque Hun également, Étienne, jusqu'à François Joseph. Donc tout le monde est là, tout le monde se tend la main, tout le monde est bien content. François Joseph, d'ailleurs, va donner son nom à ce premier pont moderne qui est un pont métallique, mais qui ne sera pas le pont Széchenyi, hein, mais un autre pont métallique très important, qui est inauguré également dans cette année 1896. Donc se met en place, à l'occasion de ces festivités, une Hongrie en pleine expansion, une très belle façade qui rentre en concurrence avec la belle façade qu'on est en train d'inventer aussi pour le ring viennois, derrière la façade, bien sûr, la misère croissante, hein, je l'ai dit, les paysans qui affluent sans cesse, comme ça, la recherche d'emploi, des usines disséminées. Il y a la pensée de Marx qui est là, pas très loin, hein, qui affleure comme ça dans les périphéries. Et tout ça aura des conséquences, évidemment, qui seront également importantes. Voilà donc un peu le cadre constitué dans ces années-là. Je rappelle quand même que Budapest a créé son premier métro. Non, en Europe. Hein. C'est-à-dire, je considère là, pendant que je vous parle, que Londres ne fait pas partie de l'Europe. Donc, je ne mets pas l'Angleterre dans l'Europe. Et donc, je dis que Budapest a son premier métro. Justement, en 1896, celui de Paris arrivera après. En fait, c'est le deuxième, mais bon, moi, je dis que c'est le premier. Voilà, on a quand même deux premières lignes de chemin de fer 1848 pour réunir justement les deux capitales de l'Empire, Budapest-Vienne, donc deux grandes gares qui vont être, dont celle-ci construite par l'atelier d'Eiffel, à l'ouest de Budapest, très très belle ferme métallique, absolument extraordinaire. Donc voilà. Et puis la gare est, autre grande gare de la ville de Budapest. Et puis, alors ça c'est vraiment pour la petite histoire, mais elle est aussi, elle permet de comprendre cette culture de Budapest. On a les yeux rivés sur Paris. Alors effectivement, on s'inspire des plans d'aménagement, d'extension, d'embellissement de la ville de Vienne, mais on a en tête la vie de Montparnasse. On a en tête toujours la vie parisienne. Et donc, la culture en Hongrie, la culture à Budapest, et dans d'autres villes d'ailleurs de Hongrie, importantes, on en reparlera, se fait dans les cafés. D'où cette petite image, cette ancienne photo, hein, Café As, ce sont les cafés. Comme les cafés parisiens, c'est là que on se rencontre, c'est là que l'on discute. Donc ça, c'est extrêmement important. On a dit que la peinture était née dans les... La nouvelle peinture hongroise était justement née dans ces cafés. Les différentes écoles qui vont s'opposer, que je vais vous montrer maintenant, prenaient place dans tel ou tel autre café. Donc voilà un petit peu le contexte. Et dans ce contexte, il nous reste à enterrer, je vais le faire très rapidement, enterrer eh bien, les premiers maîtres hongrois qui ne m'intéressent pas pour une seule raison, qui sont très intéressants, mais qui ne m'intéressent pas parce que encore formés à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, donc n'ayant pas pris conscience des spécificités locales, eh bien, vont pourtant célébrer, dans les années 1820-1830, vont célébrer à travers un esprit romantique, eh bien, les paysages qui ne sont plus les paysages de l'Autriche, mais bel et bien les paysages de la Hongrie. Cette très très belle toile de Caroline Marco, M-A-R-K-O, qui représente la très belle boucle du Danube, hein, c'est presque un inventaire touristique, hein, vous aurez reconnu ce qui reste de l'ancienne capitale de la Hongrie, la petite ville de Visegrád. Budapest n'était pas capitale avant 1872, hein, donc il y a eu toute une série de capitales avant. De l'ancien empire des Huns. Et ce Visegrád est présenté, en tout cas les ruines de Visegrád sont représentées dans une atmosphère lumineuse très 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 belle, parce que complètement exaltée par le premier plan qui, vous le voyez, est plongé dans une ombre très profonde. Donc il y a un contre-obscur qui permet de mettre en relief justement ces ruines qui nous rappellent au bord d'un fleuve absolument extraordinaire, que c'est au bord de ce fleuve, au bord du Danube, que avait pris place la capitale médiévale de la Hongrie. Aussi bien les couleurs que la lumière, que la finesse de la touche, vous le voyez à ce niveau-là, eh bien, évoque, à mon sens, le maître allemand des paysages romantiques, qui est Caspar David Friedrich, et qui est bien sûr un contemporain de Caroline Marco. Et ce Marco est vraiment à l'origine de la peinture de paysage en Hongrie. Il va devoir s'expatrier, donc il laissera très très vite l'Empire. Il changera complètement de manière, hein. Ce sera une manière plus classique, plus inspirée de Lorrain et de Poussin. Donc je ne vous montre pas d'autres peintures, mais je voulais ouvrir cette séance avec cette très belle peinture de paysage où là, tout d'un coup, même s'il n'y a aucune revendication derrière, on prend conscience du paysage, du territoire et de l'histoire dans un même espace. L'histoire. L'histoire, justement, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, elle est à l'ordre du jour dans toutes les académies d'Europe, sauf peut-être avec plus de nuances en France. Et c'est pour ça, on va le voir, que les peintres hongrois vont circuler du côté de la France. Cette peinture historique, influencée par l'historicisme des académies de Vienne, et vous allez voir, on va en parler beaucoup de Munich, mais pour cette Hongrie qui commence à acquérir un petit peu d'autonomie, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il est bien évident que la peinture d'histoire revêt une signification politique importante, puisqu'elle se fait un peu l'écho de ce début du nationalisme, même si ça n'a pas marché, la guerre d'indépendance de Kossuth, on a quand même ce compromis. Et donc, cette peinture que vous voyez là, il y a énormément de peintures de ce type. Je n'ai pas voulu insister sur cet aspect-là de l'historiographie, mais je vous montre quand même un ou deux exemples. Voilà une peinture de Madaraz, Victor Madaraz, M-A-D-A-R-A-S-Z, qui relate un événement très très important pour les Hongrois qui sont en train de regarder leur histoire. Ils regardent beaucoup l'histoire de la formation de leur pays au Moyen-Âge, mais ils regardent aussi beaucoup l'histoire du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire au moment où les Hongrois, dans la partie très très à l'est de leur pays, c'est-à-dire cette partie qu'on appelle la Transylvanie, a mis en avant toute une série de héros, de personnages historiques, hein, ils ont existé, et qui ont combattu contre les Turcs, et parfois même contre les Habsbourg. Parmi eux, une famille très célèbre, c'est la famille Hunyadi, et l'image que vous avez devant les yeux relate le deuil de Laszlo Hunyadi, c'est-à-dire le personnage recouvert d'un linceul blanc, Laszlo Hunyadi, est le fils de celui qui a été au XVe siècle le grand défenseur de la patrie contre les Turcs, de cette patrie constituée à la fois de l'Autriche et de la Hongrie, mais qui n'existe pas en tant que telle, c'est Janos Hunyadi, le roi de Transylvanie, pour des raisons politiques, a été prêt à tuer, alors je ne veux pas revenir dans le détail, son fils, sachant que le second, le cadet, pourrait devenir le roi de Hongrie. Et ce futur roi de Hongrie, c'est le fameux Matthias Corvin. Bon, l'histoire, peu importe l'histoire, je dirais, ce qui m'intéresse, c'est cette peinture d'histoire, c'est-à-dire une atmosphère tragique qui est rendue par à la fois l'expression évidemment douloureuse des personnages, c'est-à-dire la mère et la fiancée du jeune homme qu'on vient d'assassiner, et qui sont un peu une espèce de point de lumière dans une zone complètement obscure, complètement dans l'ombre. C'est un tableau absolument gigantesque, un format absolument incroyable, et on est en... Ce qui caractérise cette peinture d'histoire, chaque fois, c'est très peu de couleurs et une ambiance de clair-obscur. Donc c'est vraiment une recette qu'on applique et qui devient extrêmement ennuyeuse, et on relate comme ça la vie de tous les personnages, exclusivement, bien sûr, hongrois. Il faut savoir que cette toile a eu une reconnaissance absolument internationale, puisqu'elle a obtenu, au Salon de Paris en 1861, elle obtient la médaille d'or. Donc voilà ce que produisaient les académies de peinture avec la peinture historique dans un premier temps. Je vous montre un autre tableau. Alors, je n'ai pas pu l'avoir en couleur. Je vous montre un tableau en noir et blanc, simplement pour vous montrer que les manières sont très différentes, hein, d'un peintre à l'autre. Malgré le noir et blanc, vous pouvez apercevoir ici un artiste qui travaille beaucoup plus sur les effets de matière, hein, ça se voit malgré le renoncement à la couleur. Cet artiste s'appelle Julia Bengso, vous avez son nom Je vais peut-être arrêter de toucher la flèche. Bengzur, B-E-N-C-Z-U-R, lui-même deviendra professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Donc, on a quand même un nombre impressionnant dans les années 1840-1850 de Hongrois qui deviennent professeurs à l'Académie de Vienne et qui réalisent encore, il y a tout un choix comme ça, de peintures qui sont des peintures relatant un peu toujours les mêmes histoires. Là, c'est les adieux toujours du même personnage, Laszlo Hunyadi, qui va périr dans la scène suivante. Ses amis arrivent, il leur dit au revoir. Voilà, il est là, stoïque. Bon, je ne l'ai qu'en noir et blanc, mais de toute façon, on le voit bien, c'est le même procédé. Un grand coup de lumière à gauche, le personnage principal, un grand coup d'ombre sur la droite. Donc, ce Bengzur, vraiment personnage très très important quant à la peinture d'histoire. Je vous montre une autre toile, toujours en noir et blanc, peut-être la plus célèbre. Encore, on aperçoit des effets de matière. Ce personnage, ici, c'est Étienne, le premier qui s'est converti donc au christianisme, donc devenu le premier évêque de la ville de Buda, et qui est évidemment baptisé. C'est le fameux baptême d'Étienne, c'est probablement la toile la plus célèbre. Il y a un effet Rubens, c'est une composition en diagonale, des effets de matière, il y a du clair-obscur, c'est vraiment une toile baroque. Enfin, c'est voilà, la peinture historique de la fin du XIXe siècle est baroquisante chez tous ces artistes qui sont formés exclusivement à l'Académie viennoise. Cette peinture-là, bon, je vous la montre, mais ce n'est pas celle qui m'intéressait. Je voulais vous montrer ce qui se passe juste après ce moment de prise de conscience qu'on a une histoire et qu'on veut en parler, ça c'est sûr, mais en même temps, on ne veut plus aller à Vienne. On veut plus se former à Vienne parce qu'il y a le grand méchant François Joseph. Et qu'on veut redécouvrir autrement que dans la peinture d'histoire académique figée nos propres territoires, nos propres paysages, nos propres histoires et aussi, surtout, et en cela la France va être importante, la vie quotidienne de nos campagnes, de nos villes, dans les années 1860-1870. Alors là, on est obligé de tourner la page. Bye bye Vienne, on va voir ailleurs. Et donc, à partir des années 60, l'école qui va devenir le centre d'intérêt des artistes hongrois, ce n'est plus Vienne, c'est Munich. Tous les artistes hongrois vont partir sur Munich. Sur cette capitale bavaroise qui est en train de vraiment de devenir une capitale fort sympathique grâce à ce monsieur Louis II. Sympathique, c'est-à-dire que on a une Académie des Beaux-Arts vraiment très libérale, on a plein d'expos, il n'y a pas beaucoup d'expos à Vienne, il y a un super fonctionnement du marché de l'art, il y a beaucoup d'artistes étrangers, notamment des États-Unis et de plein de régions d'Europe qui débarquent à Munich, c'est assez incroyable. Et en 1869, au moment de cette grande et première exposition internationale des arts au Glaspalast de Munich, où on avait 200 000 habitants, on a 3 000 artistes qui vivent à Munich. Donc vous voyez, c'est quand même un centre, on n'a pas l'équivalent à Vienne. Donc c'est un centre d'art qui est extrêmement important. Et on peut considérer que sur ces 200 000 habitants, il y en a pratiquement 30 000 qui sont liés plus ou moins directement à la vie artistique de la cité. Et donc, à Munich, vont débarquer de très, 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 très nombreux Hongrois pour se former en tant qu'élèves et plus tard prendre la place d'enseignants à Munich. Plus tard, ils reviendront en Hongrie. Mais à ce moment-là, ils vont servir d'intermédiaires. À Munich, c'est comme à Vienne, hein. C'est toujours la peinture historique qui est au sommet de la hiérarchie des genres picturaux. Mais plus seulement. Et je vous montre là une peinture de paysage d'un professeur de l'Académie de Munich, mais qui venait souvent se balader en Hongrie, il s'appelle Piloty, Carl Theodor Piloty. Et je dirais que ce Piloty, que ce monsieur Piloty, à Munich, il est un représentant d'autres tendances qui vont devenir de plus en plus importantes, qui sont les tendances qu'on appelle à l'époque réalistes, qui proviennent de France, de Belgique. Et donc, c'est l'entrée du réalisme, du plein air, dans ces écoles du nord de l'Europe. Et les Hongrois qui n'iront pas dans un premier temps en France, à Paris, ils n'iront pas tout de suite à Barbizon, ils iront après, dans les années 50-60, ils vont avoir connaissance de ces révolutions à travers les très nombreuses expositions des artistes français, je pense à Courbet par exemple, très nombreuses expositions de Courbet, qui sont organisées très régulièrement à Munich. Donc Munich est une école extrêmement importante. 1871, au retour de ces 20 années d'expérience à Munich, on a donc une école maintenant hongroise très importante. Et comme on a une école hongroise importante, soutenue par des collectionneurs importants, on va donc construire au bout de l'avenue que je vous ai montré tout à l'heure, de leurs Champs-Élysées locaux, là, de l'avenue Andrassy, on va construire une académie des beaux-arts avec un musée des beaux-arts sur le modèle des musées des beaux-arts gréco-romains qu'on construit dans toute l'Europe dans ces années-là. Donc 1871, vers le bois de la ville, la première grande bâtiment des beaux-arts. Alors, je termine ma conclusion qui était un peu longue. Mon introduction, je vais à l'envers. Hein. Donc je terminerai cette intro en disant que cette école émergente, elle s'est formée à Munich. Elle ira à Munich, elle a rencontré le plein air français. Elle ira voir dans les années 1880 qu'est-ce que c'est que Barbizon. Elle va aller le voir de ses propres yeux. Et puis, elle reviendra vers son pays. Et dans son pays, elle formera, et c'est ça, c'est cette attitude-là qui me semble tout à fait inédite par rapport au territoire européen comme ça, périphérique. De retour en Hongrie, mais il y en a qui ne rentreront pas, il y en a qui resteront à Paris. Mais ceux qui reviendront en Hongrie formeront des écoles, des communautés d'artistes très, très, très nombreuses, un peu sur le modèle de Skagen. Vous vous souvenez quand j'avais présenté Copenhague, sauf qu'à Copenhague, il n'y a que Skagen. Alors que là, je vous montre sur cette carte où vous voyez donc la Hongrie avant 1914, celle qui nous intéresse, et tout ça. Vous avez un certain nombre de noms de villes qui sont des lieux devenus des colonies d'artistes extrêmement important, où on va donc expérimenter, faire la synthèse de ce qui a été appris à Munich et à Paris et trouver un débouché local. Et ce débouché local, c'est la représentation de la vie quotidienne à Kecskemét, à Négyezújfalu, à Zentendre, à Nagybanya, et à Szolnok. Nagybanya, aujourd'hui, hein, c'est la ville de Bayamar en Roumanie. Je vais vous montrer, je vais parler essentiellement des centres de Szolnok et de Nagybanya. Alors, avant d'arriver dans ces deux centres, on va donc regarder l'activité des tout premiers artistes formés à Munich, mais qui, à Munich, connaissant nos peintures françaises, vont éclaircir leur palette. Voici un des grands, grands peintres des années 1850-1860, Károly Lotz, L-O-T-Z. Et je vous montre tout de suite une aquarelle des années 60 qui nous montre un paysage de la Pusta. À ça, la Pusta, elle va être très souvent représentée, cette grande plaine. Au sud-est de Budapest, toujours le même motif, toujours le puits à bascule, Et ce paysage, très frais, bien sûr, il y a encore une vision romantique, mais pour moi, il y a déjà quelque chose de réaliste. Le fait même de s'intéresser à ce détail-là, au lieu de la grande histoire, montre bien que le romantisme est en train de s'évanouir face à la réalité quotidienne d'un paysage fidèle à la nature, mais avec des couleurs très apaisantes, une apposition comme ça des couleurs par couches très très légères, qui convient, me semble-t-il, parfaitement à la représentation de ce paysage qui est tout à fait particulier. Beaucoup des artistes hongrois de cette génération des années 60 montreront avec un coloris comme ça qui s'éclaire la Puszta, la grande plaine de Hongrie. Károly Lőcz est extrêmement bien représenté. J'ai choisi des tableaux qui ne proviennent que, alors pas de collection privée, de toute façon l'histoire des collections est assez complexe. Là, beaucoup de ces grandes collections privées ont rejoint à partir de 1871 le grand bâtiment que je viens de vous montrer. Et donc, toutes les peintures que j'ai choisies appartiennent à la galerie hongroise de peinture, la galerie du XIXe siècle. Pour la petite histoire, je suis allée encore récemment, il y a un mois et demi, et il y a tellement des problèmes avec le gouvernement actuel qui ne soutient plus aujourd'hui la culture en Hongrie, qu'on parle aujourd'hui de supprimer la galerie qui présentait la peinture du 19e hongroise. Donc s'il y a des pétitions qui circulent, vous pouvez les signer, parce que c'est une collection absolument extraordinaire et ce serait terrible qu'elle ne soit plus montrée au public. Károly Lőcz, bien sûr, il fait ses aquarelles, mais regardez la différence. Il peut faire ce type, il peut regarder tout d'un coup la Puszta et la vie quotidienne qu'on n'a jamais montrée, mais en même temps, il est aussi le peintre d'histoire qui va travailler à la décoration du Parlement. Donc là, je vous présente la séquence d'entrée du Parlement de Budapest. Il y a toute une série de peintures historiques qui nous montrent évidemment des personnages extrêmement importants de l'histoire de la Hongrie. On les retrouve dans toutes les pièces. Voici la grande pièce où se réunissait le Parlement. Je rappelle que la construction a duré très longtemps, hein, c'est absolument gigantesque. Elle a été achevée en 1906. Et évidemment, effectivement, pardon, sur les côtés de partie latérale de cette pièce, on voit comme ça des peintures. Je ne veux pas rentrer dans l'iconographie. Alors, soit elle raconte des scènes de bataille où la Hongrie est victorieuse, soit alors elle renvoie évidemment à des scènes de conquête de la démocratie, États-Unis, Angleterre, etc. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les artistes qui ont participé à ces différentes scènes, ce sont les mêmes qui expérimentent par ailleurs dans un autre contexte des choses beaucoup plus modernes, et notamment cette peinture de plein air. Voilà, c'est le même Károly Lőcz qui a travaillé au décor du Parlement de Budapest et qui a réalisé ces mêmes séquences que je vais vous montrer dans un instant. On va le retrouver également à l'Opéra, hein, l'Opéra de Budapest, le plafond... un des plafonds des petites pièces, je crois que c'est le fumoir ici, vous présente aussi voilà, une scène de bacchanal typique, hein, d'érotisation comme ça, de l'art typique de la fin du 19e siècle. Là, c'est plutôt, je dirais, l'influence viennoise. Et c'est toujours le même artiste. Voilà. Et ce même artiste est capable de faire des choses comme ça. Pardon, c'est pas de lui, c'est celle-là. Voilà. Le même artiste est capable encore dans ses... aquarelle, très très moderne, de nous présenter l'opposition entre deux couleurs, le ciel et un espace vert. C'est tout. Je vous montre également un autre artiste de la même génération, formé de la même manière, du côté de Munich. Il s'agit de Bertalan Zekely, S-Z-E-K-E-L-Y, et vous voyez, Zekely, pareil, il a répondu au grand programme, opéra, académie de musique, la Grande Académie de musique hongroise, l'Académie Franz Liszt, également le Parlement, mais en même temps, dans ces trois petits formats que j'ai choisis, trois petits tableaux, eh bien, qui sont des huiles, hein, non plus de l'aquarelle, hein, cette fois, il nous présente des variations atmosphériques sur probablement la Puszta hongroise, mais il s'intéresse surtout à une observation à la Léonard, si vous voulez, des nuages. Donc c'est quelque chose qui... et en même temps, qui le traite un peu de manière dramatique. Hein. Il y a une espèce de tension entre, évidemment, la formation de ces tourbillons de nuages, avec toute une gamme comme ça de gris, de bleu, et puis le reste de la peinture. C'est un peintre extrêmement original, qui n'est pas allé encore à... Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ces Hongrois, ils ne sont pas allés à Paris. Ils n'ont pas vu le plein air, ils n'ont rien vu de tout ça, pas directement, mais ils l'ont vu indirectement grâce à vraiment... Il y avait pratiquement une expo par jour qui tournait, organisée à Munich. Et ça, c'est quand même une vie locale munichoise qui est quand même très, 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 très étonnante pour l'époque. Ce même Zekely qui, dans cette détrempe, cette peinture à la détrempe, qui nous représente alors là un motif typiquement hongrois qui fait référence à un moment de la légende de la naissance de la Hongrie, c'est l'histoire de ce cerf merveilleux. On voit des uns comme ça qui sont en train de traverser la campagne. C'est une étude préparatoire. Ce qui l'intéressait là, c'était de faire cavaler ces chevaux. Et pour réaliser le mouvement, il y a une étude des photos de Muybridge. Donc il y a une connaissance vraiment de ce que l'avant-garde proposait dans cette époque-là. On est dans les années 1880-1890. Donc ça va au-delà d'une simple représentation picturale, si vous voulez. Donc ça me semble intéressant. Bengzur. Je vous ai montré tout à l'heure le tableau noir et blanc, assez ennuyeux, de Bengzur, c'est-à-dire le baptême d'Étienne. Le même Bengzur, Julia Bengzur, sortie de l'académie, répondant à une commande privée, était capable de réaliser ceci, c'est-à-dire cette femme en train de lire dans un bois. C'est une toile de 1875, c'est-à-dire un thème de la vie privée. En fait, c'est sa femme qu'il est en train de décrire ici. Peinture de paysage, il me semble, avec des effets accentués, on le voit à certains endroits, d'ombre et de lumière qui enrichissent le paysage à l'arrière-plan, donc qui n'est pas plat. Et ça, c'est une manière qu'il a appris à Munich. Barbizon est pas loin, et c'est une conception qui est autre que avec cette atmosphère de plein air qu'une simple réalité. Donc ça enrichit évidemment au niveau de la perception, ça enrichit évidemment la peinture de paysage. Mais le même artiste, vous le voyez, est capable de réaliser ce type de peinture. Donc cette huile qui représente un tableau mythologique, il s'agit de la représentation de Narcisse, et qui est tout droit issue de, bien sûr, d'une peinture de Caravage. Hein. Alors avec des éléments peut-être symbolistes, il n'y avait pas chez Caravage, mais on est quand même dans un autre temps. Mais voilà, donc vous voyez, ce sont des artistes qui sortent de l'académie et qui, sortis de l'académie, regardent, voient autrement. Et ça, c'est très intéressant. Parmi ces grands peintres, alors il y en a un dont le nom est très difficile à prononcer. Voilà. Il s'appelle... Très facile le prénom, c'est Paul, Pâle, très facile. Mais le nom, c'est Zinyei Mers. S-Z-I-N-Y-E-I, Zinyei Mers, M-E-R-S-E. Ce peintre est peut-être le peintre le plus célèbre en France. Alors lui, il aura fait le voyage à Paris. Il va faire le voyage à Paris, tout en s'étant formé à Munich. Et on peut dire qu'il est le précurseur de l'impressionnisme hongrois. Ce que vous voyez là, c'est une toile qui représente Pâle Zinyei Mers et qui a été réalisée par un de ses collègues à l'académie à Munich. Il s'agit de Leibl, Wilhelm Leibl, grand peintre impressionniste allemand. Hein, on voit beaucoup de peintures au musée de Berlin. Donc ils sont amis et il a C'est éblouissant, quoi, ce monochrome. Mais on va, voilà ce que fait Mers à ce moment-là. Voilà le portrait de son frère, avec en train de fumer la pipe. Et vous allez voir comment il va sortir de ce système académique. Hein. On a encore quelque chose issu du clair-obscur, avec la tête et la main qui émergent comme ça de l'obscurité. Il y a quand même quelque chose qui est nouveau. Et vous allez voir, on va le retrouver de toile en toile, et c'est ce qui fait la valeur, à mon avis, de l'école hongroise. C'est la touche de couleur. Je trouve que le rouge est un petit peu hardi. Le rouge de ce casque de cavalier qui annonce vraiment un grand coloriste. Et le voilà, le grand coloriste qui émerge. Voilà cette mère avec ses enfants, une toile datée de 1868. Il sort de l'école, il a eu comme maître Piloty, dont je vous ai montré le paysage tout à l'heure, le paysage de la Pusta. Et c'est pratiquement une des premières peintures de plein air réalisées en Hongrie en 68-69. Ce qui va faire la réputation et ce qui permet d'identifier le travail de Merz, c'est un type de composition où Merz adopte toujours des pentes abruptes, comme ça, avec une diagonale qui donne un mouvement. Donc ces paysages sont des paysages en pente, pratiquement dans tous les tableaux. Donc ça donne un côté vivant, un côté très très vivant. Et puis on voit bien ce qui se passe ici, c'est que au lieu de retrouver les tons dorés, le clair obscur, on va avoir une palette qui s'éclaircit, c'est évident. Et sur cette palette qui s'éclaircit, on va adopter des contrastes de couleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Mais lui, il est allé à Paris. Il est allé à Paris, mais il le traduira avec sa manière hongroise, qui est vraiment un travail sur la couleur. Voilà ce que ça donnera dans la toile suivante, 73, ce fameux pique-nique en mai, qui a été absolument rejeté par toute la critique d'art d'Europe centrale, qui ne comprenait pas ce type de peinture, qui renvoie bien sûr, vous l'aurez compris, au déjeuner sur l'herbe français, au multiple déjeuner sur l'herbe français. Hein, c'est comme il y a une antériorité iconographique évidemment de quelques 7 ou 8 ans, pas plus. Zinei Merz n'a pas encore vu le tableau auquel on pense tous, mais forcément que ce tableau a fait grand bruit, donc il le connaît à partir de reproductions. Parce qu'il ira à Paris un petit peu après. Donc il ne l'a pas forcément vu. On a toujours cette vision plongeante, on a toujours cette pente assez aiguë, avec l'ombre de l'arbre, là, qui est vraiment très très intéressant. Mais il y a cette insouciance du déjeuner sur l'herbe. Il y a aussi, ce qui est nouveau, c'est les taches de couleur. Et vous allez voir, ça va être de plus en plus important. La même année, voilà ce qu'il réalise. C'est une étude, il en a fait plusieurs, une étude pour un atelier. En fait, c'est suite à une conversation qu'il a eue avec Arnold Böcklin, le peintre symboliste, qui aussi enseignait à Munich, bien sûr. Et en 72, ils se sont beaucoup fréquentés en 1872, pendant cette année-là. Et Böcklin lui aurait suggéré de travailler dans un atelier qui aurait été, au lieu d'avoir un atelier simple, sobre, avec une seule couleur, il disait ce serait quand même intéressant de voir comment ton esprit réagirait si tu chargeais ton atelier de couleurs, de décors, avec des tapis, avec des tapisseries, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'a fait Merz. Il a effectivement réalisé un atelier plein de couleurs. D'ailleurs, on voit bien, vous reconnaissez une esquisse préalable au tableau que je viens de vous montrer précédemment, qu'il met comme ça au premier plan, dans le coin droit de la toile. Et alors, je ne sais pas quel a été le résultat sur la psyché de notre peintre, mais en tout cas, le résultat ici sur cette esquisse, c'est le travail sur la couleur, cette composition chromatique avec des tons extrêmement vifs, presque criards pour l'époque. On est en 72, 73, et des couleurs les couleurs même du tableau ne semble pas être dérangé, si vous voulez, par l'ensemble des couleurs qui sont tout autour, du fait de la composition, avec encore la diagonale là, sur le tableau de Chevalet, donc ce qui permet de casser l'horizontalité du tableau. Donc on a quelque chose qui est assez construit, presque un peu architecturé. Et donc on a comme ça toute une série de contrepoints chromatiques qui tiennent, qui se tiennent et qui n'envahissent pas le tableau qui est présenté au premier plan. Donc ça marche et c'était pas facile. Enfin, a priori, c'est pas forcément facile de construire un tableau de cette manière. Voilà un petit peu comment évolue donc Merz. Je vous montre un des tableaux les plus beaux de Merz, qui est un petit format, tout petit format, qui s'appelle La Montgolfière. Vous avez probablement en tête les grandes compositions de Montgolfière, de Goya et de Monet, où, rappelez-vous, il y a une foule qui assiste à l'envol de la machine. En fait, ce que je trouve très très beau dans cette Montgolfière-là, c'est que l'homme est absent, et vous n'apercevez que en bas de l'image, ici, la cime des arbres. Et quant au navigateur, il se semble un peu se désintéresser de ce qui se passe. Et donc, il y a un effet symbolique, bien sûr, la machine qui devient le symbole de la pensée de l'artiste, qui s'élève comme ça au-dessus du monde des contingences, de ce qui se passe, de ce qui se passe sur Terre. Et là encore, on a quelque chose qui est absolument étonnant au niveau du choix de la couleur. Ce bleu qui est un bleu particulièrement intense et que l'on peut retrouver dans beaucoup, beaucoup de toiles de Merz. Merz c'est un très très grand format qui nous montre la fonte des neiges donc sur le territoire hongrois et qui est très proche finalement de des peintres de Barbizon dans la relation très intime qu'il instaure là avec la nature, avec des moyens très très simples, on le voit, simplement surhaussé de blanc pour montrer quelques silhouettages. On voit vraiment, on affirme cette fois-ci la touche, ce qui était absolument interdit de réaliser dans l'académie, et bien on fait exactement le contraire. Et puis bien sûr, énormément de chants de coquelicots. On a toutes ces vibrations qui sont données par la juxtaposition des couleurs complémentaires, le vert et le rouge. Donc on retrouve évidemment quelque chose qui a plu chez nous, des artistes que nous connaissons bien, je pense notamment à Monet. On est presque dans les mêmes années. Voici un tableau de... Nous changeons de peintre, nous quittons Merz pour voir un autre peintre qui s'est formé aussi à Munich, qui a commencé, en revenant en Hongrie, à peindre des paysages hongrois. Il s'agit de Géza Mezoly, M-E-Z-S-O-L-Y. Et là encore, référence à la pusta hongroise, bien sûr, mais avec un motif un peu nouveau. Au lieu d'avoir la grande plaine vide de l'infini, il a placé sur un plan intermédiaire ces arbres gigantesques qui se dédoublent comme ça, et il obtient avec des demi-tons très dégradés un coloris très atténué qui nous donne une impression comme ça de... Enfin, une impression assez sereine. Et il s'intéresse, bien sûr, à la vie locale. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Cette vie locale, elle va embrasser aussi les gens qui habitent ces lieux. Donc, on va se rapprocher d'eux et on va en faire des portraits. Alors, celui qui, le premier, a réussi les portraits de ses habitants de la Transdanubie, c'est probablement Munkácsy. Un des peintres les plus célébrés en France, Munkácsy, est resté très 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 longtemps. Il est parti à Munich, il s'est formé à Munich, mais il va obtenir une bourse, et ensuite il partira à Paris. Alors là, on est dans la génération de ces peintres qui, à la fin des années 60, début 70, vont venir vivre longtemps à Paris, vont découvrir Courbet, vont découvrir les peintres de Barbizon, et vont ensuite rentrer dans leur pays, tardivement, eh bien, s'intéresser à la manière de Barbizon, mais à des détails propres à leur pays, en les, bien sûr, en les soutenant, en les glorifiant d'une certaine manière. Cette femme au fagot, qui date de 1873, on voit bien là l'influence des paysagistes de Barbizon. Le pinceau est léger, on voit ce qui se passe à l'arrière a été presque comme silhouetté, et il y a un contraste, si vous voulez, entre ce qui se passe derrière et le canon un petit peu plus académique du personnage au premier plan. Sauf que le coloris, lui, est un coloris encore assez étonnant, un coloris que l'on retrouve donc très souvent sur ce territoire hongrois. Donc ça, c'est intéressant. Du même Mukaxi, il y a à la Galerie nationale dont je parlais il y a un instant une trentaine de toiles de ce type qui évoquent tout un chemin poussiéreux de la Pusta. Il en a fait à peu près 30 versions. Je vous montre la deuxième version. C'est un tableau de 83, donc c'est Mukaxi toujours. Et ce tableau de 83, je pense, doit vous rappeler au niveau des coloris, bien sûr, les jeux de lumière d'un Turner. Turner que Mukaxi a pu voir à l'occasion d'un voyage à Londres dans quelques années précédentes. Des jeux de lumière qui sont assez inédits pour ce moment-là en Hongrie, mais qui vont devenir de plus en plus importants et qui forment vraiment, qui sont constitutifs du paysage hongrois, de ce type de spectacle de la nature aux dimensions comme ça tout à fait cosmiques, avec un ciel qui commence presque très bas et qui, voilà, c'est une autre manière de nous dire. Le paysage hongrois. Et c'est vraiment la main de Mukaxi. Mukaxi, vous le reconnaissez vraiment entre tous. Je n'ai malheureusement pas apporté beaucoup de toiles de Mukaxi, parce que je voulais préférer montrer plusieurs manières. Voici la manière de Paal, Laszlo Paal, P-2-A-L, qui lui vient vraiment d'un territoire reculé de la Hongrie, hein, il vient de Transylvanie. Il est passé par Munich, il est passé aussi par une autre école qui a eu son importance. J'en avais déjà parlé à propos de Copenhague aussi, c'est Düsseldorf. Et Düsseldorf, il a été en contact avec les paysages des Pays-Bas. Et puis, en 1973, Laszlo Paal va s'installer en France, à Paris, et il s'installera à Barbizon. Et donc en 1975, il a réalisé ce tableau dont le genre est assez connu. Il y a déjà eu plusieurs réalisations de mares aux grenouilles. Vous avez sûrement en tête le tableau de Théophile Rousseau ou bien celui de Dupré qui montre exactement le même sujet, mais avec des ambiances bien sûr différentes, puisque dans les tableaux des peintres français, l'influence des maîtres classiques reste très présente, alors que ce travail de Paal, c'est pas une analyse de paysage, hein. Pour moi, c'est vraiment un paysage, mais chargé d'émotions. Il faut savoir, donc il y a quelque chose en plus, le vent qui secoue comme ça les petites feuilles de l'étang, le paysage, enfin tous les petits oiseaux qui passent à l'arrière, il y a un paysage mais qui est mis en mouvement et c'est propre vraiment à Paal. Ce mouvement qu'on retrouve de toile en toile, je vous le montre par exemple aussi dans un deuxième tableau réalisé justement dans la forêt de Fontainebleau, toujours avec la même filiation, Barbizon. Végétation comme ça très très épaisse dans la forêt et vous le voyez les rayons de soleil qui dessinent presque des rayures dorées comme ça sur les arbres et donc il y a une très belle harmonie là de double coloration de jaune et de vert. C'est quelqu'un qui n'a jamais peint de portrait, qui a toujours été dans la nature, qui a ou alors c'est pas un portrait ça, c'est d'ailleurs
vraiment, c'est raté, la figure. Je n'ai pas de gros plan à vous montrer, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse, on le voit bien. Et quelqu'un qui s'est intéressé, évidemment, à la représentation, à la perception de la lumière dans ces feuillages, et qui mourra à Paris, qui va de plus en plus rendre ces tableaux de paysage de plus en plus émouvants, de plus en plus chargés d'émotions. Il sera interné à Charenton et il mourra à Paris, Laszlo Pál. Grand peintre de paysage. Je voulais apporter aussi des témoignages d'un peintre qui formé aussi à Munich, qui passera par Paris et qui ensuite se retirera dans les Tatras. Et je voulais vous montrer quelque chose de très construit dans ce dessin peint. Il y a des rayons de blanc, c'est un fusain avec des rayons de blanc, et qui nous montre des chênes au bord de la Tisza, hein, qui est une rivière importante aussi, qui coule en Hongrie, et où vous voyez toute la voûte des branches d'arbres de ces chênes qui construit un système très construit, très architecturé, qui est en train de cacher complètement le ciel et qui semble protéger au premier plan en bas le troupeau qui est en train de paître. Et donc cet entrelac de branches de chêne avec toutes ces lignes anguleuses qui montre peut-être vers quoi va évoluer la peinture hongroise aussi dans ces années-là, c'est-à-dire quelque chose de plus anguleux, des lignes anguleuses, et quelque chose de plus décoratif. Mais on n'en est pas encore là. Peut-être on peut le percevoir dans cette peinture. On n'en est pas encore là, on en est loin même dans une autre peinture de Menianski qui nous montre là encore un troupeau en train de s'abreuver. Donc on voit le bord de la rivière, on voit toutes ces vaches comme ça au premier plan, dans une lumière crépusculaire qui est un peu, pas comment dire, un petit peu dans la espèce de voile de brume. Et donc ce qui est magnifique, c'est toute la gamme de bleu et de gris traitée dans la lumière générale comme ça, dorée. Ça donne quelque chose de très nacré, de très, très vaporeux, et ça donne un sentiment. Là encore, il y a l'idée du sentiment qui est important, une espèce de sérénité, de douceur qui émane de ce tableau de paysage. Donc on n'est pas dans un réalisme naturaliste, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, un peu comme dans la peinture de Laszlo Pál. À partir de là, je vais vous montrer maintenant une série de peintures réalisées par des artistes qui vont être les protagonistes de ces fameuses communautés artistiques dont je vous parlais dans mon introduction. C'est-à-dire qu'à partir donc des années 1880, ce que je vous ai montré, c'est plutôt les années 60-70, donc connaissance via Munich du plein air français. Et à partir des années 80, ces artistes qui ont la même formation, mais vont vouloir s'engager davantage dans la vie artistique en formant ces communautés, en formant des écoles d'art privées. Simon Olozy, par exemple, dont vous voyez cette peinture qui s'appelle « Bon vin », Olozy, H-O-2-L-O-S-Y, eh bien, a été formé à Munich. Il a ouvert une école d'art indépendante. C'est la première école d'art indépendante ouverte par un Hongrois à l'étranger, donc à Munich. Et après quelques années, il va rentrer en Hongrie et il va former cette communauté d'artistes de Nagy Banya, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. Et donc, il va donc être extrêmement important. Et ce qu'il va enseigner à ses étudiants dans cette école d'art, très très loin, à Nagy Banya, on se demande qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Nagy Banya. C'était une petite ville de quelques dizaines d'habitants, qui était une vieille ville minière qui n'avait aucun intérêt en soi, la ville, mais tout autour, il y a effectivement une nature qui est absolument magnifique. Et ce qu'il a essayé d'inculquer à ses élèves, c'est le respect de la nature. Il était adepte lui aussi de la technique du plein air. Et il a fini par élaborer, vous allez voir, un réalisme très très personnel, très expressif, Et derrière, il y a en plus une idée d'être, l'idée d'être ensemble. C'est pas encore la théosophie, c'est un peu comme Askagen. Ce sont les peintres des années 80, ce sont des peintres qui vont être plus sensibles aux problèmes sociaux de leur pays. Et donc, ils vont donc plus montrer les êtres humains de leur pays aussi. Donc, il va y avoir des personnages maintenant qui vont, vous allez les voir de plus près. Jusqu'à présent, vous voyez plutôt des paysages vaporeux, on pouvait apercevoir des silhouettes, mais on ne s'intéressait pas encore à la personne. Cette fois-ci, on s'y intéresse vraiment. Et dans Bon Vin, grand format absolument extraordinaire, on a une tranche de vie vraiment tangible. On a renoncé à l'ombre qui faisait disparaître les personnes dans les paysages. On a vraiment une proximité tangible avec les trois personnes, le joueur de violoncelle, il s'intéressait beaucoup à la musique, Olesi, le soldat, et puis celui qui vient boire un coup. Et donc, on est très proche, là, de cette peinture qui a été, qu'on a oublié, j'en disais deux mots la semaine dernière, qu'on a oublié parce que le phénomène des avant-gardes nous a fait oublier les peintures de Daniel Bouvray, de Bastien Lepage, de tous ces gens que Orsay a remis à l'honneur, mais qui finalement étaient beaucoup plus connus que les impressionnistes ou que les néo-impressionnistes. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous montrais... qui est-ce que je vous ai montré la semaine dernière déjà? C'était pas Daniel Bouvray, c'était qui? Ah, vous n'avez pas suivi. Je vous ai montré... ça m'échappe. Et c'était Bastien Lepage. Voilà, Lepage, rappelez-vous, qui a été très très important pour la formation des peintres finlandais. C'est pareil, on retrouve, vous allez voir, on va retrouver l'influence de Bastien Lepage dans les peintures de la campagne que je vais vous montrer maintenant. Sauf que nous, Hongrois, il nous montre des cours de ferme, il nous montre la campagne avec un chariot, mais il y a la couleur qui est différente. Il y a la touche qui est passée de manière différente. Il y a le traitement de la couleur. Vous allez voir les bleus de plus en plus. Les bleus sont un bleu particulier. Moi, je pense toujours à Byzance. On est en Europe centrale. On n'est pas en France. Alors, je vous montre encore d'autres choses. Voilà Fifine. Donc, immortalisée du fait d'avoir reporté en lettres capitales sur le bord de la table, comme ça, l'approche psychologique du petit enfant. On est encore dans une dominante sombre, mais enfin, les tonalités sont assez délicates. Et puis voilà. Voilà un peu ce que Olesi, ou bien encore Dick Ebner, là, c'est un autre peintre, D-E-A-K-E-B-N-E-R, Laios Dick Ebner, nous montre de sa campagne, le retour des moissonneurs, par exemple. Dick Ebner, Olesi, il est plutôt proche de ce petit village de Nagy Banya, donc on est vraiment en Transylvanie, alors que Dick Ebner, lui, il a plutôt fréquenté la communauté d'artistes de Szolnok, c'est-à-dire cette ville qui est à quoi, 50-60 kilomètres à l'est de Budapest, que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. Et ce type d'études de la campagne hongroise est absolument extraordinaire. Le caractère narratif, bien sûr, est très présent. Hein. Ce sont les moissonneurs. On s'intéressait, je pense aussi à Breton, par exemple, au tableau de Breton que l'on peut voir à Orsay, qui représente pratiquement la même chose, d'ailleurs, un retour de la moisson. La paysanne, là, qui est en train de se baisser, regardez en bas à gauche, moi, elle me fait penser à certaines figures de Millet aussi. Mais il y a une tonalité qui est différente. Il y a des tons plus clairs que dans la peinture de Millet. Et donc, là, on s'éloigne de la tradition romantique. On s'intéresse vraiment au type populaire hongrois, c'est-à-dire, les dames qui ont les fichus sur la tête, ce type de vêtements avec les broderies locales, qu'on va remettre de plus en plus à l'honneur à partir des 1880-90, jusqu'à former, d'ailleurs, l'école Art Nouveau hongroise, qui est un autre sujet, qui est absolument extraordinaire. Donc on commence à voir apparaître des figures locales. On le voit ici, on le voit à la foire à la volaille également. On est vraiment scène de marché. Alors tous ces tableaux ont été présentés à Paris, hein, dans les différents salons. Ils ont tous obtenu des prix. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'est toujours des grands formats, là. Hein. On est sur des grandes dimensions. On est sur des thèmes mis à la mode, bien sûr, Millet. Je reparle de Bastien Lepage. On connaissait mieux le travail de Lepage que le travail de Millet. Et le travail de Breton, hein, je l'ai dit il y a un instant, donc très important pour parler plus de la paysannerie. Alors voilà, Bastien Lepage, je vous ai montré, rappelez-vous la composition que je vous ai montrée la semaine dernière, qui s'appelait Les Foins, donc ça s'appelle aussi Les Foins, mais sauf que c'est un tableau de Dick Ebner. Je ne vous ai pas rapporté celui de Bastien Lepage, mais on est très très proche. Dans le silhouettage, ce monumentalisme qui est beaucoup plus simple que précédemment. Voici un autre peintre qui est avec Olozi derrière l'invention de la communauté de Nagy Banya. Il s'agit de Károly Ferenczy, F-E-R-E-N-C-Z-Y. À la fin de la séance la semaine dernière, une dame est venue me voir parce que j'avais passé trop rapidement ce jeune garçon, je ne sais pas si cette dame est là, ce nez qui était au bord de l'eau. C'est exactement le même type de composition. C'était un des premiers tableaux d'Axel Galen. Et là, je vous montre un tableau de Ferenczy. C'est exactement le même coloris, le même, sauf qu'il était isolé. Alors là, vous avez trois jeunes garçons qui sont en train de lancer des cailloux au bord du Danube. On est tout près de Saint-André, hein, la ville de Saint-André. C'est une peinture très très célèbre de cette période. Il faut savoir que le petit truc quand même utilisé, la manière de procéder de Ferenczy, c'était un photographe, passionné de photos, et donc il peint à partir de ses clichés. D'où les cadrages qui sont assez nouveaux, assez inédits, d'où les tonalités basique, enfin de base, qui provoque une unité, quoi, assez uniforme, une tonalité comme ça de gris, bien sûr, c'est la transcription de la photo dans la peinture, avec l'idée quand même de Ferenczy, d'essayer d'éviter, du moins dans les premiers tableaux, d'éviter l'effet d'instantanéité de la représentation dans la scène quotidienne. L'idée, c'est quand même d'éterniser, sinon on fait pareil que la photo. Donc, c'est d'éterniser l'immédiateté de l'instantané photographique. Et donc, il se disait, si j'utilise des tons comme ça neutres, je crée cette unité, je vais pouvoir inscrire cette question de l'éternité. Dans le temps, Ferenczy va évoluer, vous le voyez, il va utiliser des couleurs un petit peu plus éclatantes. Par contre, le thème est intéressant, puisqu'on est vraiment dans la vie quotidienne. Ça s'appelle « Devant les affiches », c'est une toile plus tardive, 1891. Donc, on pense à cette idée très réaliste, presque photographique, hein, comme ça, d'une scène de rue. Encore un peu estompée à l'arrière par un voile de lumière grise. Moi, je pense là encore bien au naturalisme très raffiné de Bastien Lepage. Mais vous voyez la différence avec la précédente. On est dans une rue de la capitale, très probablement, ou dans les faubourgs. On peut identifier les immeubles à étages, le type de cheminée aussi qu'on avait dans les faubourgs, avec les murs coupe-feu aussi qu'on avait dans les faubourgs de Budapest, et les emblèmes, bien sûr, de la vie citadine, lampadaire à gaz, la cheminée, le type d'affiche, un cirque, et toutes les catégories, enfin plusieurs catégories sociales qui sont représentées. On le voit ici, pour le jeune apprenti qu'on a vu précédemment, pratiquement la police, la campagne, la bourgeoise locale. Et puis, une vue quand même de Nagy Banya. Et regardez bien cette vue, parce que dans quelques instants, je vais vous montrer d'autres vues par la génération qui arrive, la génération des années 90, vous allez voir que, soumis à d'autres influences rencontrées à Paris, les couleurs vont être de plus en plus importantes. Mais voilà comment Ferenczi montre Najib Anya à travers ce tableau très spirituel qui raconte la communauté d'artistes. Ça s'appelle le Sermon sur la montagne. Et en fait, Ferenczi souhaitait illustrer là une scène biblique et l'associer à ce site absolument incroyable de la ville de Najib Anya. Donc on a bien le paysage hein, qui est prioritaire ici. Mais en même temps, toutes les figures comme ça, assises ou à demi étendues, qu'on peut identifier, hein, et comme on peut identifier certains personnages, bon, je ne vais pas les nommer, ça n'est pas tellement intéressant, mais c'est pour nous dire ce qui se passe, cette communion d'esprit entre tous ces peintres, c'est presque une composition religieuse. Alors, on s'intéresse au plein air, mais en même temps, on évoque quelque chose de plus spirituel. Et petit à petit, vous le voyez, toujours sous l'influence de la... Pardon, excusez-moi. Sous l'influence de la photographie, eh bien, dans une peinture comme celle-là, qui s'appelle Archéologie, on a un hommage, et en même temps à une science nouvelle. Il y a un côté allégorique, cette idée de ces gens qui retrouvent et déterrent la beauté qui est ensevelie, et donc faire une référence, bien sûr, à la beauté grecque que l'on aperçoit ici. Et le traitement, vous le voyez, le traitement de la peinture est traité comme une lithographie, comme ces affiches Art Nouveau, hein, monumentales, à plat de couleurs, on le voit ici. Donc la peinture, on le voit bien, est en train de bouger, tout ça est en train de se transformer. Et voici, on retrouve le bleu, rappelez-vous tout à l'heure le bleu de la Montgolfière. Et ce tableau est absolument extraordinaire, grand tableau qui s'appelle En haut de la colline, qui date de 1901 et qui nous montre donc on est à Najib Anya et on voit la touche cette fois-ci extrêmement vibrante, hein, cette fois-ci on est, vous voyez, on a plusieurs manières de procéder, cette vibration des formes, que ce soit dans les teintes plus chaudes, ocre ici ou les teintes vertes du premier plan, ou bien appliqué au bleu, et cette petite silhouette très sombre qui se détache dans le ciel azur. Il y a un côté très décoratif, je trouve, et ce côté décoratif donné par le bleu, on pense à Friedrich aussi, hein, bien sûr, donc il y a un côté un peu mélancolique, romantique, mais en même temps, la couleur est étonnante, et cette couleur, c'est la couleur qui est en jeu, on va le voir dans la peinture hongroise. Je vais peut-être passer plus rapidement sur celle-ci pour arriver à cette troisième génération d'artistes née dans les années 70 et qui va travailler au début des années 1900, première décennie. Pensez à ce qui se passe chez nous. Il faut savoir que dès 1897, Gauguin, Van Gogh sont vus à Munich, pas à Budapest, mais à Munich. Il y aura un accrochage aussi en 99 des peintures de Gauguin à Budapest. Et que, même si la formation se fait toujours sur Munich, on a une connaissance élargie de ces avant-gardes. Matisse, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de Hongrois vivent à Paris. Beaucoup de Hongrois ont fait partie, d'ailleurs, de l'école inventée par Matisse. Matisse a une école de peinture. Ils ont été les élèves de Matisse. Et parmi ces artistes qui vont ressentir vraiment ce travail sur la couleur de manière très très importante, peut-être que la personnalité la plus marquante, c'est celle qui va renouveler d'ailleurs la colonie de Zonolk, parce que finalement on a eu plusieurs générations qui ont remis en route ces différentes colonies. Eh bien, c'est Adolphe Feignes, F-E-N-Y-E-S. Ce tableau s'appelle « Matinée dans une petite ville ». Alors, on n'est pas Zenolk. Normalement, ce sont des tableaux qui nous montrent Zenolk, mais ici, il a réalisé un bourg, une vue, un petit détail d'un bourg très proche de la capitale. C'est la ville, le petit bourg de Vach, V-A-C. Il y a ce mouvement très très long en frise des deux personnages qui traversent le bourg, une espèce de sentiment de torpeur, on a l'impression qu'il fait très chaud, soleil de plomb, et on voit la répétition aussi sur les vieux murs. Et Fénies arrive à exprimer la chaleur estivale en construisant son tableau avec des grandes taches de couleurs, parmi lesquelles bien sûr le jaune mais très chaud domine. Le rouge qui flamboie sur le parasol, enfin sur l'ombrelle, pardon, et sur la robe du vêtement féminin. Regardez ce vert aussi presque pur des frondaisons des arbres. Et donc on a comme ça, cette fois-ci, un espace qui est construit à partir de la couleur. C'est-à-dire que... on va avoir de plus en plus un espace, une perspective qui n'est plus inventée par le dessin, mais bien par des valeurs chromatiques. Et qu'il va falloir rechercher, bien sûr, une harmonie de ces valeurs chromatiques. Et ça va être quelque chose qui va mener, à mon avis, au décoratif, au décor, à l'art nouveau, chez certains de ces artistes. Donc ça, c'est totalement nouveau. Voilà, ça donne ça, par exemple, toujours de Fénies, qui a représenté deux petits-enfants, le frère et la sœur. La sœur s'emparant de son petit frère comme pour lui dire quelque chose. Une espèce de grande harmonie décorative qui préoccupe probablement plus le peintre que la thématique sociale. Et en même temps, il s'agit bien aussi de nous dire la vie quotidienne de gens simples, de la campagne, de Zenolk ou bien de Nagy Banya. C'est très simple, il n'y a pratiquement pas d'objet. Hein. Deux objets suffisent à cadrer, à contextualiser. Le modelé échappe totalement à l'académie cette fois-ci. Et on est vraiment dans une harmonisation des couleurs qui est très très belle et qui se juxtapose bien sûr à la grande simplicité formelle. Parmi ces artistes qui vont être de grands coloristes, quelqu'un qui formé à Munich toujours, mais qui restera très longtemps à Paris. Il arrivera à Paris en 1887, il est peut-être le plus célèbre à Paris des peintres hongrois, c'est Ripple Ronaille, R-I-P-L, R-O-N-A-I. Il y a un petit tiret entre les deux, Joseph Ripple Ronaille. Sens du croquis absolument extraordinaire. Le voilà en train de croquer un café à Paris. Il étudiera à l'Académie Julian, près de Bouguereau. Et il connaîtra, il sera l'ami de Maillol, il sera l'ami de Maurice Denis, il sera l'ami des Nabis, beaucoup des peintres Nabis. Très grand copain de Bonnard également. Et il restera, je l'ai dit, très 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 longtemps, donc à Paris. Voilà les débuts de Ripple Ronaille. Donc effectivement, on voit bien ce qui se met en place cette fois-ci. Hein, l'aspect linéaire, le côté, je synthétise les formes. C'est un portrait de sa mère. Un portrait de son père et de son oncle. La couleur qui émerge, une couleur presque pure, avec la touche, qui est une touche assez étonnante. Bon, il a vu... On va voir comment va se développer sa touche. Et puis, le monde des Nabis, qui l'influence fortement. Peut-être la toile la plus célèbre à Paris, dans ces années-là, on est en 89, la femme en robe à pois blanc. Dans les portraits des femmes qu'il a fait, c'est toujours vu par en dessous, comme ça, un silhouettage vu par en dessous, avec des formes très, très oblongues. On pense, bien sûr, aux estampes japonaises, à certaines toiles aussi de Whistler, et quelqu'un qui va utiliser exclusivement des couleurs pures. Ça aussi, c'est nouveau. Presque pas de mélange. Des peintures qui ne se recouvrent presque jamais. C'est un travail de juxtaposition des couleurs, vous allez voir. Dans les premières toiles, on a une dominante de gris et de brun, presque monochrome. Et puis, il n'y a plus de clair-obscur du tout, hein, ça c'est clair. Il n'y a plus d'autres procédés que la couleur pour donner l'illusion de l'espace. L'aspect linéaire, bien sûr. Et c'est à propos de cette toile que, rappelant, il a beaucoup écrit, hein, Ripoll de Ronay, et qu'il revient en arrière pour expliquer son travail et expliquer surtout cette idée de ne pas hiérarchiser le détail et l'ensemble de la composition. Et il donne un nom à ce principe qu'il appelle le principe de l'égalitarisme, et que vous allez voir ce que ça donne dans les tableaux ultérieurs. Il y a la même facture, tout le tableau va être traité avec le même point de vue. Donc c'est une technique très très particulière qui apparaît pour la première fois ici avec les points. Mais ici, il y a plusieurs factures. Vous allez voir ce que ça donne dans les tableaux suivants. Ça va donner des choses comme ça. Ça va donner une touche qui est la même, que ce soit pour les arbres, que ce soit pour les troncs, que ce soit pour les personnages. Ici, il s'est représenté en train de peindre sa femme et sa nièce, Lazarine et Annella, dans le parc. Il habitait à, je ne sais plus où, à Paris, mais... Non, je ne sais plus où c'était à Paris, mais enfin bon, au moment, et on voit affleurer, vous voyez que les taches sont ocres, c'est la toile qui affleure, le carton qui affleure par en dessous, mais c'est la même touche, son procédé d'égalitarisme. Ici, là, ou là, c'est exactement la même chose. Et voilà ce que ça va donner dans le temps. Voilà encore un autoportrait au travail, il est dans son atelier, traité de la même manière. Vous voyez la touche encore ici. Et cette touche qui va devenir, c'est entre le point et le rond de tout à l'heure. Tout est traité de la même manière, sauf peut-être cet aplat ici. Cet égalitarisme va se prêter particulièrement au travail décoratif qu'il réalisera pour des commandes de vitraux, des commandes d'objets. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. On aurait pu consacrer vraiment une conférence entière à Ripoll Ronay parce que c'est quelqu'un qui a été, alors non seulement qui est important pour montrer évidemment l'évolution de comment les Hongrois ont assimilé toutes ces leçons, mais aussi parce que à Paris même, il a été un personnage il y a eu des jeux d'influence, si vous voulez, dans les deux sens, et notamment sa proximité avec les peintres nabis. Je ne voulais pas clore cet exposé, sinon j'aurais eu l'impression quand même de tricher. Je n'ai pas apporté beaucoup de peintures de ce type. On ne peut pas non plus passer sous silence le fait que les Hongrois, du fait de la proximité avec Vienne, dans les années 90, je pense à Klimt, surtout à Klimt, à Romako ou à d'autres peintres de ce type, forcément qu'il y a eu aussi quelques artistes qui sont partis se former à Vienne. Mais ils étaient tellement peu nombreux que j'ai voulu vraiment montrer l'impact de Munich et de Paris. Mais quand même, il y en a qui se sont formés à Vienne, et à Vienne, ils ont pris connaissance de la sécession. Et sur un portrait de ce type, qui est dû à un peintre qui s'appelle Janusz Torma, T-H-O-R-M-A, il s'agit du portrait d'une femme très très importante hein, pour la culture de cette époque. Elle s'appelle Irène Bilcz, B-I-L-C-Z. Il est bien évident qu'on a un traitement très décoratif de la surface. Regardez notamment le fond du tableau qui a été réalisé avec des petites plaques de feuilles d'or qui ont été apposées. On le voit bien, hein, les unes. C'est vraiment un petit carré, c'est vraiment la feuille d'or, posées les unes à côté des autres. Et le peintre a atténué le côté éclatant, le côté un peu vif de l'or, en appliquant sur ces différentes feuilles une couche de peinture et parfois de l'essence de térébenthine. Et donc, il a disposé notamment des couches de couleur verte qui atténuent cet effet trop marquant que l'on voit par exemple chez Klimt. Et ça donne quelque chose d'un peu de byzantin pour moi, et qui est assez intéressant. Alors, cette application sur le fond doré, hein, on le voyait à Paris, c'est un procédé qui avait été introduit par l'art japonais, qui était très en vogue à ce moment-là. Mais moi, je le mets plutôt sur le compte de l'influence de l'art byzantin, et notamment dans ce portrait-là, parce qu'il se trouve que le père de cette jeune femme était un prêtre catholique qui officiait selon le rite grec. Alors, il y a peut-être... là, j'invente. Hein. Enfin, j'invente. Je veux dire par là que j'interprète. Mais je me dis, bon, peut-être que... voilà, du fait de la commande... Bon, en tout cas, on a un tableau marqué par l'art nouveau, mais je dirais un art nouveau plus décoratif, à la manière, au décorativisme à la Klimt, si vous voulez. Et je terminerai avec une explosion de couleurs. C'est ce que je voulais faire. Une explosion de couleurs qui n'aboutira sur rien, pour des raisons politiques, mais bon. Explosion de couleurs chez ces peintres de la troisième et dernière génération, tous installés à Najibania, et qui, dans les années 1904, 1905, 1906, passés par Paris, passés par Munich toujours et Paris, eh bien, on va reconnaître Gauguin, Van Gogh et Matisse, bien sûr. Vous avez en tête les fauves. Il y a d'ailleurs l'ancienne conservatrice du Musée national d'art moderne, Christina Passut, qui est hongroise, et qui a écrit un très beau livre sur le fauvisme. Sur le fauvisme hongrois, très bel ouvrage, qui a fait aussi, bien sûr, qui a été l'occasion d'une exposition près de chez vous. Donc je vous renvoie aussi au catalogue de l'exposition. Et donc, je vous montre là Károly Kernstock, K-E-R-N-S-T-O-K, Károly Kernstock. Il a été un des chefs de file de l'école de Najibania. Et il réalise ici un portrait de son copain, qui n'a cessé de dire qu'il a été, paraît-il, alors il a un peu triché, mais lui on ne veut pas, il a toujours soutenu qu'en 1905, il a fait partie de la première exposition des fauves à Paris. En regardant les catalogues, blablabla, blablabla, Christina Passut s'est rendue compte, oui, il n'a pas dit, il était en 1905 à cette expo qui a réuni 500 tableaux, mais ces 500 tableaux formaient une expo dont seule une salle avait réuni les fauves. Et il n'était pas dans la salle où il y avait les fauves. Il était dans les autres. Et donc, Xobel, ce Béla Xobel qui est ici représenté par Kernstock, alors c'est le portrait de Béla Xobel au chapeau de paille. Donc, c'est sous l'influence de Xobel, ça c'est sûr, par contre, qui avait eu la première expérience parisienne de la couleur fauve, qu'ensuite tout le monde s'est mis à cette couleur, avec de plus en plus une utilisation très décorative de la couleur. Donc des couleurs très vives, des couleurs pures, des ombres colorées, hein, cette fois-ci. L'ombre, c'est de la couleur, comme chez Matisse. Reflets colorés, on le voit bien sur le visage, bien sûr, et aussi sur la chemise. Voilà ce qui nous attend en Hongrie dans les années 1900. Je vous montre un tableau de Xobel qui nous montre un morceau de boulevard parisien. Ça s'appelle Boulevard à Paris. Voilà Xobel en 1906. Voilà ce qu'il réalisait, ce qui était présenté dans les expos parisiennes. Voici un dessin également de Xobel. Donc, synthétisme du trait. Et puis, bien sûr, on découvre Matisse, mais on regarde aussi du côté de Cézanne. Forcément, et le même Xobel, qui d'ailleurs en 1905, je ne l'ai pas dit, mais dans la toile précédente, enfin dans le dessin précédent, dans le fusain précédent, a remporté à l'Académie Julian un prix avec ce nu. Et donc, Xobel qui réalise aussi ce type de nature morte, qui permet évidemment de déconstruire, que commencer à déconstruire l'image, de retravailler l'espace et de poser la question de l'objet et de son environnement. On en voit ici un exemple. Voici un deuxième exemple pour aboutir à cet artiste. Alors cet artiste, c'est le plus important. Pour mes préoccupations. C'est Lajos Tihany, T-I-H-A-N-Y-I. Il est mort à Paris, il est décédé à Paris dans les années 30, je ne sais plus la date exacte. C'est quelqu'un qui a perdu Louis à la suite d'une méningite quand il était enfant. C'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas fait les beaux-arts à Munich. C'est quelqu'un qui a fait de la photo, qui a fait une école privée de dessin et qui s'est joint aux artistes de Najibania. Ces artistes de Najibania qui, ensemble, vont revendiquer, comme les groupes s'affirment dans toute l'Europe, hein, les fauves, les cubistes, les machins, les trucs, bah, ils vont revendiquer aussi. Ils vont s'appeler le groupe des huit. Alors, composé des deux, trois peintres que je suis en train de vous montrer, enfin, il y en avait huit, mais je ne vous les présente pas tous. Et Tirani a découvert à Paris Cézanne, Van Gogh, qui l'ont marqué profondément. Et c'est très, enfin, je trouve que c'est son autoportrait, qui date de 1912, où là, il expérimente vraiment la limite de l'objet, lui en tant qu'objet, déterminé par l'espace auquel il doit s'adapter. Donc la manière de faire coïncider le premier plan, la forme sur le fond, avec cette dissociation, à travers donc un morcellement des formes, à la manière un peu du cubisme analytique, si vous voulez, on voit la netteté comme ça, très incisive, hein, sur le visage, surtout, mais avec en plus, là où les cubistes vont réduire la palette, au contraire, les Hongrois, avec ce travail sur la couleur, si important pour eux, vont, à travers le choix des couleurs, vont rendre plus de nuances que ne peuvent le faire les cubistes à ce moment-là. Et donc, donnant beaucoup plus d'expression à leur peinture. Et cette question de l'expression ne quittera jamais, jamais la peinture hongroise. Et ce peintre est très intéressant, et en général, il a donc, je ne vais pas vous montrer d'autres peintures de Tirani, je ne peux pas vous montrer son évolution, parce que son évolution a été stoppée net par la guerre. C'est-à-dire que toute cette, ces pauvres Hongrois, c'est vrai que 2000 ans d'histoire, où ils ont toujours été stoppés net, il n'y a pas... Là, c'est 14-18. 14-18 est l'arrivée d'une dictature. Et donc, au moment du passage à l'abstraction, que j'aurais bien aimé vous montrer, d'ailleurs, que je vais quand même vous montrer, assez rapidement, voilà. Le passage à l'abstraction ne se fera pas à Budapest, ne se fera pas en Hongrie. Il se fera, ça va durer un an ou deux, hein, les deux ans... de la République, ça a duré quoi, deux, trois ans, je crois qu'en 20 c'était terminé, Bélaclune arrive au pouvoir, etc. Et c'est terminé parce qu'ils partiront tous. Le dictateur arrive au pouvoir, Horthy, c'est fini, vous imaginez bien, Horthy, condamnation totale des avant-gardes. Et donc ces artistes hongrois continueront leur avancée, mais ils iront à Berlin. Ils formeront les cadres importants des enseignants du Bauhaus. Mais c'est terminé pour eux. La Hongrie, c'est fini jusqu'à après la guerre. Donc, c'est encore une rupture. Ce ne sont que des ruptures en Hongrie. Donc, on a commencé notre parcours comme ça, avec cette peinture de paysage. Elle a amorcé, surtout à partir des années 1860. C'est dommage, ça s'arrête très brusquement. Mais ce que je retiendrai, moi, de cette éclosion de la peinture hongroise, à travers Munich, on l'a vu, à travers Paris, c'est surtout l'éclosion des colonies d'artistes dans ces années-là. Je vais donc terminer par quelques vues de Najibania, justement, quelques vues de Najibania réalisées par Lajos Tirani. Un an avant qu'il... complexifie ses compositions, qu'il aille voir du côté du cubisme analytique, au moment où il a découvert la couleur pure. Donc voilà quelques tableaux qualifiés de fauves par Christina Passou. Je pense, vous avez en tête, hein. Oui, on n'en parle même pas, c'est bon. Voilà. Je termine avec cette image et avec évidemment le regret de ne pas pouvoir vous entraîner plus loin du fait de cette rupture due à la guerre, mais surtout à ce qui s'est passé après la guerre. Effectivement, ces artistes iront vers l'abstraction et iront vers des choses extrêmement intéressantes. Je pense à Molinage ou d'autres, mais il faut aller les voir du côté de l'Allemagne. Pour eux, la Hongrie, c'est vraiment terminé. Voilà, donc c'était mon troisième volet. C'est très différent, vous voyez, encore de la pratique des Finlandais. Il nous restera à voir le quatrième et dernier volet. On se rapproche un peu plus de l'Occident. On ira en Bohême-Moravie. On reste quand même dans une périphérie. Vous allez voir, c'est encore un quatrième cas un petit peu différent. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 18, mais c'est pas à 14h, puisqu'on avait modifié la date et l'heure. Ce sera à 16h30. Voilà. Ce sera le quatrième rendez-vous.
Merci. Vous me faites penser à une précision. Je rappelle que cette année, nous avons un cycle d'histoire de l'Europe centrale par M. Farinck qui traite du 19e siècle. Et donc, vous aurez l'arrière-plan historique de tout ce que vous avez dit par un historien. C'est un autre sujet. Mais c'est un historien qui aime beaucoup l'histoire de l'art et il en met toujours une petite couche dans ses exposés. Voilà. Merci.
Merci.